Alors bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette bénédiction matinale du mercredi 23 novembre 2022. On est très content de vous avoir encore ce matin. On poursuit notre série d'enseignements sur la thématique C'est par la foi, qui aborde donc le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, le fameux chapitre où on parle des héros de la foi. Donc, on est parti tranquillement dans chacun des personnages que ce chapitre nous présente et on est arrivé maintenant dans une section où il n'y a pas de noms qui sont mentionnés, simplement des actions posées, des faits rapportés dans la parole de Dieu et on tente donc d'associer chacune de ces mentions avec des personnages autant que possible. On est pour l'instant dans une section où oui, on peut relater des faits qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament notamment. Par la suite, on va tomber dans une section qui est plus contemporaine aux auteurs ou à l'auteur du livre aux Hébreux. Donc à ce moment-là, on aura moins de noms, mais on sera capable malgré tout de parler de situations où la foi a été expérimentée. Hier, on a débuté une série de deux enseignements, donc on termine ce matin sur le personnage de Josaphat et on l'a relié donc à une section de verset dans le verset 33. Ils vainquirent des royaumes. Donc, on aura l'occasion de le relire et de relire aussi le chapitre 20 de 2 Chroniques qui nous sert de réflexion pour ces deux journées. Je vous avise déjà que demain matin, je ne serai pas en onde. J'ai un rendez-vous médical. Donc, je ne pourrai pas être là ces prochaines semaines. J'ai en fait plusieurs rendez-vous médicaux qui vont venir faire sauter quelques séances de ou plusieurs séances de bénédiction matinale, mais c'est cette période-ci de l'année où tous mes médecins regroupent les différents rendez-vous, tests et examens. Alors sur ce, on va prier et après ça, je fais la lecture pour vous pour aujourd'hui. Alors merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, merci pour ta grâce, merci pour cette occasion que nous avons d'être édifiés, fortifiés, encouragés par ta parole et aussi mis au défi afin de mener une vie qui t'est agréable, qui t'est plaisante et que tu peux approuver et bénir. Alors je te demande, Seigneur, d'étendre ta main, de toucher ma sœur, de toucher mon frère, de toucher toute personne qui écoutera cet enseignement, soit aujourd'hui, soit maintenant même en direct, voire même, Seigneur, ceux qui pourraient écouter en différé, voire dans l'avenir cet enseignement, qu'une même onction, qu'une même grâce nous soit donnée. Éclaire-nous, instruis-nous, bénis-nous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus et tout le monde peut dire Amen. Alors si vous entendez quelqu'un qui fait une crise d'asthme, ce n'est pas moi, c'est Nema, mon chien qui est à côté de moi et qui cherchait un peu l'attention. Alors je lis pour vous Hébreux 11, les versets 32 et 33, mais 32 à 34 on va dire plutôt. Et par la suite, je vais dans 2 Chroniques au chapitre 20. Alors, Hébreux 11, le verset 32 nous dit « Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Et la section qu'on étudie aujourd'hui, comme hier, c'est le début du verset 33 qui nous dit « Et qui, par la foi, vainquirent des royaumes. » Donc, ils eurent victoire sur des royaumes. Et comme on a dit hier, on aurait pu utiliser plusieurs personnages, depuis Abraham contre les kidnappeurs de Lot, son cousin, et qui avait kidnappé aussi les rois de Sodome et de Gomorre. Donc, on aurait pu parler effectivement d'Abraham. On aurait pu parler de David contre, bien entendu, les Philistins. On aurait pu parler de différents rois, de différents juges aussi. Gédéon contre Madian ou autre, mais on a décidé de façon éditoriale, donc un choix personnel, d'aller étudier un personnage qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent et qui est le roi Josaphat. Voilà pourquoi je vous conduis maintenant dans 2 Chroniques au chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20, je vais lire pour vous du verset 1 au verset 32. Longue lecture, on a vu la moitié des points soulevés hier, qu'on va ressasser rapidement et par la suite on continuera donc notre étude. Donc 2 Chroniques chapitre 20, le verset 1 nous dit, et on va jusqu'au verset 32, le verset 1 nous dit: « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon avec ceux de Maonite, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présentant au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jakaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jehiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jakaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsitz et vous monter à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kehatite et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini, les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appellent ce lieu, cette vallée, de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leur ennemi. Ils entrèrent à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes de tous les autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre l'ennemi d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Josaphat régna sur Jérusalem, sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilshi. Il marcha dans la voie de son père, Asa, et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et tout le monde peut dire Amen. Alors voilà l'histoire de Josaphat qui est attaqué. Juda est attaqué, et je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier qu'on parle ici d'un événement qui est survenu lorsque Israël, la Judée, le pays d'Israël, était divisé en 2 royaumes, le royaume du nord, le royaume du sud. Donc le royaume du nord a gardé le nom d'Israël, et pour le royaume du sud, principalement composé avec la tribu de Juda et quelques tribus connexes autour, on a appelé ça un plus petit royaume, on l'a appelé le royaume de Juda. Donc Josaphat n'était pas roi sur l'ensemble du territoire traditionnel d'Israël, mais sur la partie sud, donc sur le territoire de Juda. Et contre Juda va venir une délégation des fils de Moab, des fils d'Ammon, de surcroît à eux, des gens de la montagne de Séir. Et de la façon dont Dieu va délivrer Israël, c'est que ces 3 groupes riches, opulents, faisant affichage de leur richesse, vont exercer les uns contre les autres de la vardise. Donc, Ammon et Moab vont tout d'abord se retourner contre les habitants de Séir, vont les exterminer, vont prendre donc leur richesse, et par la suite, les 2 nations qui restent, Ammon et Moab, vont elles deux s'entretuer. Et on peut présumer que c'était effectivement pour acquérir les richesses de leurs nouveaux adversaires. Israël monte à un lieu que Dieu leur a fixé. Ils se pointent là où le Seigneur leur a demandé d'aller, au haut d'une montagne, juste en face du désert. Et là, ils voient la vallée remplie de cadavres avec tout d'abord les habitants de Séir, de la montagne de Séir, puis les soldats et les militaires de Moab et d'Ammon qui se sont tués entre eux. Et lorsqu'ils vont descendre dans la vallée pour s'accaparer des richesses, on nous dit que ça va prendre 4 jours et qu'ils vont devoir en laisser même derrière eux, tellement il y a de richesses qui ont été capturées lors de ce prix de guerre, va-t-on dire. Donc hier, on a vu 5 points, 6 points, 1, 2, 3, 4, 5 points hier. qu'on va juste énumérer rapidement. Et après ça, on retourne au point d'aujourd'hui qui est au verset 18. Au verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Israël. On a vu que la foi doit imposer une poursuite, une recherche constante de la présence de Dieu. Le verset 4, qui était notre deuxième point, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'Éternel. On a vu que la foi bénéficiait, profitait de la fraternisation, de la communion au sein du corps de Christ. Pour nous en tant qu'Église. Donc, notre deuxième point, je vais prendre une gorgée. Notre deuxième point, c'était donc de cultiver et d'entretenir la foi de façon commune. Oui, veiller à notre foi de façon individuelle, dans notre vie personnelle, mais savoir aussi que nous bénéficions des témoignages des uns et des autres, des vécus des uns et des autres pour faire croître donc notre foi. Du verset 5 au verset 9, un long passage qu'on ne reliera pas, mais on élevait le point comme quoi la connaissance préalable de Dieu et de sa parole va fortifier notre foi. La Bible nous dit que notre foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Donc notre foi se nourrit de ce qu'on entend, et ce qu'on entend devrait être la parole de Dieu. Et un des faits particuliers de Josaphat, c'est que lorsque les problématiques se sont présentées, Josaphat n'était pas en train de tourner à droite et à gauche dans la Bible, voire de dérouler tout un tas de rouleaux avec les textes bibliques pour essayer de trouver le verset par excellence pour sa situation. Il était capable d'élever devant Dieu certains faits, certains écrits, certains oracles que Dieu avait déjà prononcés à l'égard de son peuple. Il connaissait donc son Dieu et il connaissait donc la parole de Dieu. Et pour nous, c'était comme quoi la foi va être fortifiée par une connaissance préalable, de façon anticipée, de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. Le verset 12, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements contre eux ?» car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Et le verset 12 était donc un énoncé selon lequel l'admission de notre incapacité ou la confession de notre incapacité et de notre faiblesse était aussi un élément qui fortifiait notre foi. Tant que je me débrouille par moi-même, tant que je pense être capable de me débrouiller par moi-même, ma foi n'a pas à être active. Mais la foi va devenir tout à fait appropriée et va devenir propice au moment où je me tourne vers Dieu et je confesse effectivement ma faiblesse, ma petitesse et mon incapacité à faire face à la tempête qui survient. Et le verset 17, qui était le dernier verset que nous avons étudié hier, « Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire, présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Donc, c'est une chose de venir vers le Seigneur et de lui dire « Je confesse, Seigneur, que je ne peux rien et que je ne sais rien. » Le Seigneur nous dit par la suite « Voici ce que tu vas donc faire, puisque tu me dis que tu ne sais rien, que tu ne peux rien, voici ce que je préconise pour toi. Mais encore faut-il que nous obéissions à ce que Dieu préconise, à la méthodologie, au processus et au plan de Dieu. » Donc, la foi va être fortifié par le fait de se présenter docilement au rendez-vous que Dieu nous fixe. Et pas de dire simplement à Dieu, « Non, débrouille-toi avec ça là-bas, laisse-moi faire autre chose. » Ou « Règle la problématique et après ça, je me présenterai. » Non, Dieu va dire au peuple, « Regardez, vous n'aurez pas à combattre, mais je veux que vous soyez sur place. Je veux que vous vous teniez pour que vous soyez témoin de ce que j'aurais fait. Je veux que vous y alliez parce que vous aurez quelque chose à faire. » Et souvent, nous, on veut ne pas être dans l'horaire, dans le temps, dans le lieu, que Dieu préconise pour nous, mais on veut imposer notre volonté, imposer notre façon de faire, imposer notre processus et notre sagesse à Dieu. C'est bien futile de notre part, puisque foncièrement, on sait que Dieu sait toutes choses, connaît toutes choses et assurément est bien plus sage que nous tous réunis. Alors, le verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda, les habitants de Jérusalem, tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. C'est un thème que j'aurais pu aborder aussi avec le jeûne, puisqu'il y a un jeûne qui va être proclamé sur l'ensemble du territoire de Juda. Ici, on le voit de façon beaucoup plus éclairée, où on nous dit que Josaphat va s'incliner le visage contre terre. Non seulement lui va-t-il faire, mais aussi tous les habitants de Juda et tous les habitants de Jérusalem vont venir et tomber devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Être docile envers le Seigneur impose de surcroît, puisque c'était le dernier point qu'on voyait hier, ça demande aussi de s'humilier devant le Seigneur. L'humilité est de mise devant le Seigneur. Il y a des versets qui nous le disent très très clairement, dont celui que vous connaissez tous qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Dieu résiste, donc s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Par conséquent, si on veut que Dieu nous fasse grâce, la foi va imposer chez toi et chez moi, non pas cette audace hautaine que parfois on affiche, et on prétexte que c'est parce que j'ai l'assurance que, mais parfois c'est plutôt une arrogance que nous affichons. Ici, même si Josaphat sait que Dieu est tout-puissant, même si Josaphat a entendu que Dieu lui promet d'intervenir et d'agir, que fait Josaphat? Il s'incline face contre terre devant l'Éternel. L'humilité est de mise dans la vie de tous les croyants. Très souvent, je pense que notre foi devient inefficace, devient inopérante, principalement en raison de l'orgueil, de la fierté mal placée qui nous habite très facilement. On vient demander grâce à Dieu, mais l'Éternel agit, et après ça, on prend la gloire pour nous. On vient demander grâce à Dieu, il se met à intervenir, il se met en action, et on pense que c'est parce que je le mérite, il me le doit, j'ai atteint un certain statut qui fait que Dieu n'a d'autre choix que d'intervenir à mon égard. Comprenons une chose, tout ce que Dieu fait à notre égard, tout ce que nous recevons de la part de Dieu est une question de grâce. La grâce, la conception de la grâce, la compréhension de la grâce devrait appeler chez nous, tout comme notre désir de voir notre foi être active et être efficace devrait imposer chez nous de l'humilité. Un chrétien orgueilleux est un chrétien qui va mal. Un chrétien orgueilleux est un chrétien qui grandit mal. Un chrétien orgueilleux est un chrétien qui est proche de la chute parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu t'entêtes dans l'orgueil, crois-moi, Dieu va s'entêter encore davantage à te résister. Voilà pourquoi pour toi, pour moi, pour le bien-être de notre foi, pour la bonne croissance de notre foi et pour l'efficacité de notre foi, l'humilité est de mise. Verset 19 et verset 21. Le verset 19 nous dit « Les Lévites d'entre les fils de Kehathite et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le verset 21 qui se passe le lendemain. « Puis, d'accord avec le peuple, Josaphat nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Deux événements qui se passent à 24 heures d'écart. La veille, lorsque le Seigneur reçoit la supplication de Josaphat et il répond avec la promesse d'intervenir, Josaphat, entouré de Lévite, en particulier les fils de Kéhatite et les fils de Coréite, qui vont se lever pour célébrer le Seigneur. Puis, le lendemain, alors qu'on s'apprête à marcher pour aller au point de rencontre fixé par Dieu et voir la délivrance de Dieu, Josaphat, en accord avec le peuple, la Bible nous dit qu'il va nommer des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, vont marcher devant l'armée d'Israël et vont célébrer Dieu en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Deux points importants ici. Chacun est à son poste. Les Lévites sont à leur poste. On aurait pu penser que Josaphat, malgré l'insistance de Dieu, comme quoi ils n'auront rien à faire, aurait pu, puisque nous sommes en guerre, placer ses militaires, ses hommes forts sur l'avant-plan. Non, il va décider de mettre les chantres. Les chantres se sont placés devant le peuple et ont fait leur travail. Lorsque tout le monde s'est humilié devant Dieu, qu'ont fait les chantres de Kéhatite et de Coréite, ils se sont levés et ils ont commencé à célébrer Dieu. Chacun était à son poste et chacun a contribué. Les soldats sont allés, les hommes à tout faire sont allés, le peuple est allé, mais les Lévites ont aussi fait leur travail. Mais le point commun sur l'ensemble, c'est qu'ils ont loué Dieu. La foi se fortifie dans le fait que nous soyons à notre poste en train de faire notre travail, et la foi se fortifie aussi du fait que nous célébrions et que nous louions Dieu. Il est donc important pour toi et pour moi de savoir que si je ne suis pas à mon poste, je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Les chantres se sont placés là où ils devaient être et ont fait le travail qu'ils devaient faire. Notre foi se fortifie du fait que je sois là où Dieu me veut, quand il m'y veut, en train de faire ce qu'il demande de moi. Et les chantres, les Lévites, l'ont fait. De surcroît à ça, la Bible nous dit que Dieu habite dans la louange de son peuple, que Dieu se manifeste au travers de la louange de son peuple. Il y a une puissance toute particulière qui vient non seulement vivifier notre esprit, qui vient non seulement vivifier notre âme, mais qui vivifie aussi notre foi, qui active notre foi. Et cette clé-là importante se trouve dans la louange. Je dis régulièrement, lorsque je rencontre en privé des personnes qui travaillent au niveau du ministère de la louange ou de l'adoration, des gens à qui Dieu a donné un ton au niveau de la musique, au niveau du chant, au niveau de la conduite d'une harmonie ou d'un groupe musical, ou voire de l'assemblée au niveau de la louange. Je dis régulièrement, ou je pose la question régulièrement, comment va ton temps de louange avec Dieu? Pourquoi? Parce que je sais que de façon commune pour nous tous, mais encore plus importante chez ceux qui travaillent au niveau de la louange, il y a une bénédiction, il y a une délivrance, il y a une onction toute particulière qui coule à travers l'exercice de cette fonction. Nous, en tant qu'Église, si nous avons des chantres et des musiciens et des adorateurs parmi nous qui ne font pas leur travail, nous nous privons de l'onction qui découle de leur travail. Josaphat et Judas se seraient privés de l'onction qui découle du travail des Lévites si les Lévites n'étaient pas allés faire ce qu'ils devaient faire. Mais de surcroît à cela, lorsque nous louons Dieu, nous sommes en train de dire « Tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, tu es l'éternel des armées, tu es celui qui a créé toutes choses et qui maintient toutes choses, tu es celui qui dit la chose s'accomplit. » Lorsque nous élevons tout cela, lorsque nous vocalisons tout cela, lorsque nous le disons à haute voix, nous sommes en train de faire non seulement l'éloge de Dieu, mais nous sommes aussi en train de fortifier notre foi. Ça serait tout à fait incompréhensible de dire qu'il est le Dieu tout-puissant et le roi des rois, et de douter qu'il a l'autorité et la toute-puissance pour faire ce qu'il dit qu'il va faire. Donc lorsque nous louons Dieu, notre foi se fortifie. Chacun à son poste, chacun en train de contribuer à l'œuvre que le peuple doit faire, mais tous sont en train de louer. Le verset 26. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appellent ce lieu « Vallée de Béraka », nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Deux mots importants. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka et ils bénirent l'Éternel. Ils bénirent l'Éternel. Bénir, c'est le terme « barak ». Et « Béraka » est un nom donné à cette vallée et qui découle de cette même famille de Barak. Donc Barak a donné Beraka, bénédiction. Bénir, Barak, le verbe, le fait de bénir une chose, et Beraka, le fait de déclarer une bénédiction. Bénédiction, ici, comprenons une chose. Lorsqu'on est en train de bénir ici, ils bénirent l'Éternel. Ils ne sont pas en train de dire « Tu n'étais pas béni, Seigneur, maintenant je te bénis. Tu n'étais pas fort et maintenant je te rends fort. Tu n'étais pas puissant et maintenant je te rends puissant. » Non, ici le terme « bénir » veut plutôt dire « remercier ». Faire preuve de gratitude. Reconnaître que ce que nous avons est dû à Dieu. Notre foi se fortifie aussi dans le fait de dire « merci ». Dans le fait de reconnaître, d'être reconnaissant envers l'action de Dieu, il est important de dire merci. Tant à ceux qui nous entourent, tant à ceux qui font des choses pour nous, tant à ceux qui font preuve de politesse envers nous ou de grâce envers nous, ceux qui nous bénissent autour de nous, il est important de leur dire merci et de faire preuve de reconnaissance. Sinon, c'est de l'égoïsme. Pensez un peu. Israël se pointe en haut de la montagne, voit les ennemis qui se sont entretués, descendent et pendant 3 jours, ils ramassent un butin qu'ils ne peuvent pas tout prendre. Ils sont obligés d'en laisser derrière eux. Et là, il rentrerait à la maison, tout bonnement, profiter de ses richesses. Ça serait égoïste. Et assurément, ça ne serait pas honorer celui qui a fait le travail, qui n'était pas Judas, mais qui était l'Éternel. Donc, le peuple de Judas, comprenant Josaphat, mais l'ensemble du peuple, a fait preuve de reconnaissance. Et dans cette reconnaissance, ils ont aussi cultivé l'adoration. La foi va se fortifier aussi de la reconnaissance que nous manifestons envers Dieu. La foi va se fortifier dans le fait de reconnaître et d'être gracieux envers Dieu en le remerciant pour ce qu'il a fait et qu'il continue à faire pour nous. Dernier point sur Josaphat pour aujourd'hui. Le verset 32, la Bible nous dit « Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Josaphat marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Josaphat a cherché à marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'étant pas la peur et la terreur de Dieu, mais la crainte de Dieu étant ce grand respect viscéral qui sort des tripes qu'on doit avoir envers Dieu. Josaphat avait ce grand respect, cette vénération, cette révérence envers Dieu. La foi se cultive, la foi se développe aussi par cette révérence que nous manifestons envers Dieu. Vous comprenez que lorsqu'il y a quelque chose que j'aime énormément, lorsqu'il y a quelque chose qu'on aime énormément, on fait attention à cette chose. J'ai acheté une guitare l'année dernière pour remplacer une qui venait à à me faire défaut. Et c'est la première guitare que je m'achète moi-même, qui est un peu plus coûteuse. J'ai dit à Daphné, c'est probablement la dernière guitare que j'achète de ma vie, donc je veux m'acheter une bonne guitare. Ce n'est pas parmi les plus chères qui existent, mais j'en voulais une spéciale. Et j'ai trouvé, effectivement, avec l'aide particulièrement d'un frère, trouvé la guitare qui me convenait. Mais je prends soin de cette guitare. Je la nettoie pour qu'elle reste luisante. J'ai changé les cordes pour que le son soit meilleur. J'ai rajouté un élément électronique dessus pour rajouter un peu d'effet encore sur la guitare, pour bonifier la guitare. Lorsque nous aimons quelque chose, nous prenons soin de cette chose et nous faisons attention à cette chose. Lorsque nous aimons Dieu, nous devrions prendre soin de notre relation avec Dieu et nous devrions faire attention à Dieu et veiller à ce que rien ne vienne, on va dire, empêcher que cette relation soit optimale. Je n'ai rien mis sur la guitare qui m'empêche d'avoir le son optimal de cette guitare. J'ai plutôt favorisé une croissance du son de cette guitare. J'ai rajouté quelque chose dessus pour que cette guitare sonne même encore mieux, qu'elle me semble encore meilleure. Dans notre relation avec Dieu, nous devrions aussi marcher de manière à croître. Donc dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, dans la sanctification. Veillez chaque jour à ce que notre relation avec Dieu soit optimale, au meilleur de ce qu'elle doit être. Et ça, ce n'est pas un don spirituel. Ça, c'est une décision et un travail personnel. Le tien pour ta vie, le mien pour ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que l'humilité était de mise dans notre relation avec Dieu et que cette humilité va favoriser la croissance de notre foi. On a vu deuxièmement que chacun doit être à son poste et chacun doit contribuer et que chacun participe à la louange commune. On a vu par la suite qu'il nous fallait aussi faire preuve de reconnaissance, savoir apprendre à dire merci et que notre gratitude est aussi un instrument qui fait croître l'adoration, qui fait croître la foi. Et enfin, notre foi est intimement liée à notre marche dans la crainte de Dieu, à notre désir de sanctification et à notre travail de sanctification. Important pour toi, important pour moi aussi. Des rappels importants pour nous en ce matin. Alors prions. Seigneur, encore une fois, merci pour Josaphat qui a été un exemple pour son peuple, pour le peuple de Juda, lors de son règne de 25 années, mais qui est encore pour nous aujourd'hui un exemple. Il n'a pas été sans faute, puisque dans les versets qui suivent, on se rend compte notamment d'un échec particulier qu'il a essuyé lorsqu'il s'est associé avec des peuples étrangers pour se former une espèce de ligue de bateaux, pour se former une espèce d'armée maritime et pour s'enrichir, et que ça a été voué à l'échec. Mais Seigneur, dans une bonne partie de sa vie, Josaphat a été effectivement un exemple pour nous tous. Un exemple dans sa conduite lorsque la tempête est arrivée, dans ses réactions lorsque la tempête est arrivée. Alors je prie, Seigneur, que tu inondes par ton onction les propos qui ont été tenus tant hier qu'aujourd'hui sur la vie de Josaphat, et que tu permettes, Seigneur, que ces enseignements puissent croître, s'enraciner et devenir concrets dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère et dans ma propre vie. Seigneur, qu'on puisse faire preuve d'humilité, sachant, Seigneur, que nous ne sommes rien sans toi, effectivement, que nous ne pouvons rien sans toi, et que tout ce que nous parvenons à réussir, ce n'est qu'à cause de ta grâce, à cause de ton soutien et à cause de ton action à notre égard. Donc, Seigneur, oui, tu résistes aux orgueilleux. Nous prions que tu ne nous résistes pas, parce qu'on aura fait preuve d'humilité. Seigneur, on veut aussi être chacun à sa manière au poste où tu nous veux, comme les Lévites étaient là où ils devaient être, en train de faire le travail qu'il devait accomplir et que nous puissions apprendre à te louer, à t'exalter, à cultiver la louange comme un mode de vie, sachant que celle-ci permet à ta gloire d'éclater et permet, Seigneur, à notre foi de croître. Merci, Seigneur, de nous rappeler de te dire merci. Combien, Seigneur, on peut être ingrat, voire impoli, de recevoir toutes ces grâces et bénédictions que tu déverses sur nous, et très souvent on les prend pour acquises, comme si ça nous était dû, comme si on avait travaillé pour, comme si on le méritait. Tout ce que nous recevons de toi, c'est grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce, sur grâce. Et chacune de ces grâces, chacune des expérimentations de ta grâce devrait susciter chez nous la reconnaissance, la gratitude. Enfin, Seigneur, tu nous rappelles ce matin que la foi active, la foi fructueuse est intimement liée aussi à la sanctification et au fait de marcher dans la crainte de Dieu. Alors je prie, Seigneur, que ma sœur, mon frère, moi-même, nous soyons interpellés ce matin afin de délaisser nos mauvaises voies, de délaisser ce qui ne te glorifie point et de veiller, Seigneur, à sanctifier nos paroles, nos actions, nos attitudes, notre corps, afin d'être trouvé agréable et juste devant toi. Bénis ma sœur, bénis mon frère, garde-nous aujourd'hui, bénis-nous lors de l'étude biblique de ce soir, et en toute chose, que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi, et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, deux petits rappels, ce soir, étude biblique. Par la grâce de Dieu, c'est moi qui vous enseigne ce soir. Je remplace la personne qui était attitrée pour la soirée. Donc, étude biblique ce soir, je serai là depuis l'église. Donc, c'est en présentiel. On vous invite à être nombreux parmi nous ce soir. Sinon, bien sûr, ce sera diffusé sur nos plateformes Internet habituelles. Et de surcroît à cela, je vous rappelle que demain matin, je ne serai pas en onde pour la bénédiction matinale, un des multiples rendez-vous médicaux que j'ai en cette saison. Donc, demain matin, on fera une petite pause, mais on se retrouvera pour la dernière bénédiction matinale, vendredi matin. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, et en toute chose, soyez remplis de la grâce de Dieu, et apprenons à dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait. Bonne journée à tous.